Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka oha nui.
Et bienvenue dans cette 26e émission,
édition 2023. La fois passée, nous avions vu comment, après leur défaite contre les Taipi de Waiʻi, Porter et ses alliés Teʻi et Hapaʻa avaient fait retraite par la mer. De retour à Taiohae, Porter décide de changer de stratégie en retournant attaquer les Taipi
par l'intérieur des terres.
Le 29 novembre 1813, Porter décide donc d'attaquer les Taipi le lendemain. Il ordonne à 200 hommes de l'Essex et de l'Essex Junior, ces deux navires, de préparer des chaloupes dans le plus grand secret. Mais quand on découvre qu'elles prennent l'eau, Porter les fait porter à terre et décide de partir à Taipi Vai à pied le soir même pour profiter de la pleine lune. Avant son départ, il prévient Kiato Nui de ses intentions, puis prend la direction du col Te Awa Nui, qu'il atteint en 3 heures. Après avoir songé y passer la nuit, Porter décide de continuer la descente jusqu'au village Hapaʻa Te Pahatua, dans les vallées de Waituku puis de Waihi. De là, la troupe remonte vers le nord en direction de Taipi Vai et parvient au sommet des falaises qui surplombent la vallée vers minuit. En bas, les chants, les danses et les lumières leur indiquent que les Taipi sont en pleine réjouissance. Afin de se préparer à l'attaque du matin, Porter demande à ses hommes de se reposer, mais bientôt, une pluie torrentielle s'abat sur eux et des trempes, hommes et munitions. Et l'on sait que les cartouches mouillées ne partent pas. Le 30 novembre au matin,
Porter évalue la situation.
Même si le soleil est revenu, la descente sur Taipi Vai est extrêmement glissante et dangereuse pour des hommes transis de froid et portant leurs armes. Afin de tester l'état de ces cartouches, Porter fait tirer quelques salves vers Taipi Vai. De la sorte, ses alliés sont rassurés sur l'état de l'armement et d'autre part, en prévenant les Taipi de sa présence, il leur permet d'évacuer femmes, enfants et bétail que les Teʻi ou Hapaʻa pourraient piller. Un vacarme épouvantable monte alors de Taipi Vai, les gens ont compris qu'on allait les attaquer. Mais Porter décide d'attendre le lendemain encore pour attaquer. Et en attendant, il demande au chef Hapaʻa de l'accueillir dans son village de la vallée Otogaiki, près du Tohua Te Koika, qui veut dire la fête. Pourtant alliés de Porter, et bien qu'ayant libéré un certain nombre d'habitations pour leurs hôtes, les Hapaʻa rechignent à leur procurer de la nourriture, prétextant la pénurie. En outre, tous les guerriers Toa restent en armes. Voulant leur indiquer qu'il n'a pas peur d'eux, Porter fait mettre en pièces quelques massues ou et des lances. Il envoie aussi tuer des porcs et abattre cocotiers et bananiers afin de récupérer leurs fruits, car, prétexte-t-il, ces hommes sont trop fatigués pour y grimper. Pris de peur, les Hapaʻa changent d'attitude, produisent de la nourriture en abondance et renouvellent à Porter leur allégeance. Le calme revenu, les Hapaʻa s'éloignent et les Américains restent avec les Teʻi. Tous se reposent jusqu'au lendemain. Le 1er décembre au matin, la troupe reprend la direction de Taipi Vai par la route la plus directe depuis Te Koika. Et d'en haut, Porter est frappé par le nombre de fortifications. La première se dresse en plusieurs lignes de l'autre côté de la rivière, au pied du pic Taʻatapu, Lanstapu, lui-même fortifié. C'est probablement un Tohua, aujourd'hui disparu. La deuxième est constituée d'un ensemble de forts barrant l'accès de la vallée côté mer. Porter attaque la vallée à un endroit situé à mi-chemin de la plage et de la première cascade, à peu près face au site actuel de Paike. Guidée par Mowina, la troupe arrive au pied de la montagne, près de la rivière, où son arrivée est saluée par une grêle de pierres venant des fortifications et des frondes des Taipi. Après avoir attendu le regroupement de ses hommes, Porter traverse la rivière et s'attaque à la première ligne de fortification qui est rapidement enlevée sans aucune perte. Ayant subi la mort d'un grand guerrier Toanui, d'autres guerriers, et avec des blessés, les Taipis reculent vers une deuxième ligne de fortification située plus haut, d'où ils continuaient à accabler les Américains de pierres et de javelots en tout genre. 3 hommes de porteurs sont blessés, et les Taipis sont aussi très touchés. Ils remontent vers une troisième ligne de fortification, qui est prise après quelques résistances. Mais les Taipis contre-attaquent et reprennent leur dernière position au bout d'une demi-heure. Avec d'autres Taipis venus en renfort, ils redescendent jusqu'à la première ligne où Porter, aidé des Teihi et Hapa'a, s'était installé, et ils attaquent la position d'où ils se retirent dès la première salve de pistolets, laissant derrière eux morts et blessés. À la vue de leurs ennemis Taipis, les Teihi et les Hapa'a prennent la fuite. Ceux qui restent sont toujours assaillis de pierres. Et admiratif de tant de courage, Porter comprend qu'il va lui falloir se battre pied à pied pour arriver au fond de la vallée. Avant de remonter la vallée vers les villages, guidé par Mowina, Porter envoie un émissaire de paix aux Taipis qui ne répondent pas. Après avoir mis le feu à quelques petits villages rencontrés en chemin, Porter arrive à ce qu'il appelle la capitale des Taipis, Vahakekua, ou Vahangekua dans l'ancienne langue, village regroupé autour du Tohua du même nom, où Suggs, le professeur Suggs, effectuera des fouilles en 1957 et 1958. Vahake est le nom marquisien d'un latanier, sorte de palmier dont le nom scientifique est Prichardia pacifica. C'est aussi le nom d'un coquillage. Le nom de l'endroit signifie donc soit palmier écarlate ou bien coquillage Vahake écarlate. Porter est frappé par la beauté, la régularité de disposition et l'élégance de l'endroit, dont le Tohua dépasse tout ce qu'il a vu auparavant. Néanmoins, conformément à son plan, il ordonne sa mise à sac. Tiki, pirogue de guerre neuve, habitations, tambours, arbres à pain, cocotiers et plantations sont détruits par le feu et le reste est pillé par les Teihi et les Hapa'a. Arrivé à une cascade au fond de la vallée, non loin du village, Porter évalue l'éloignement du rivage à 9 000, environ 14 km, alors que la distance réelle n'est que de 10 km au plus, que l'on parle de la vallée Ta'aer, où se trouve la première usine hydroélectrique, ou bien qu'il s'agisse de la vallée Tuki'ei, dominée par le col Te'ava'upe, où est installée la seconde, ou bien qu'il s'agisse de la vallée Topuhi, dominée par le col Te'ava'tapuhiva, qui mène à Hatiheu de nos jours. Arrivé à ses fins, Porter décide de revenir vers la plage et retrouve le premier fort attaqué 4 heures après l'avoir quitté, ce qui corrobore la distance plus faible du fond de la vallée que les Américains n'avaient pas eu de difficulté à atteindre grâce au chemin la traversant. Me mai ta ua taha, iu ka te pepai ta puo tō ta wā.
Bahia y Otote Pokenevo. Ocote Bahia y Otote Pokenevo.
Après avoir laissé ses hommes se reposer une demi-heure, Porter confie ses blessés aux Enaana, reforme ses rangs et reprend sa marche vers la mer, détruisant plusieurs autres villages au passage. À l'attaque de l'un d'entre eux, les Taipi font rouler sur l'ennemi d'énormes blocs de rochers qui terminent leur chute dans la rivière sans avoir blessé personne. Au total, 10 villages ont été détruits. Porter arrive ensuite à l'endroit de sa première défaite le 27 novembre. Il comprend que le Tohua, auquel il s'était alors heurté, fait partie d'un deuxième système de fortifications destiné à contrer les attaques venant de la mer. Il s'émerveille alors devant une muraille de forme incurvée qui barre la vallée en amont de la plage. Haute de 7 pieds, 2 mètres 10, et longue de 50 verges. Une verge est égale à 1 yard anglais, soit 45 mètres pour 50 verges. Elle est épaisse de 6 pieds, soit 1 mètre 80. 6 pieds à la base, s'amincissant graduellement en allant vers le sommet. Cette fortification est située à un quart de mille de la plage, soit à peu près 400 mètres. Voulant marquer les esprits, Porter tente de la faire abattre par ses hommes, aidés de ses alliés, mais ils n'y parviennent pas. Il écrit alors qu'il se résout à laisser la fortification debout pour les futures générations comme monument de l'industrie et de l'habileté des Taipi.
De nos jours, pour avoir une idée des ruines de cette fortification barrant l'accès à la vallée, il faut plonger un peu au large de la plage actuelle. En effet, tout comme à Ho'oumi, parmi les différents tsunamis qui ont touché les Marquises depuis 220 ans, certains très puissants ont repoussé l'embouchure de la rivière de Taipivai de plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des terres.
Porter reprend ensuite sa route vers la mer, et c'est sur la plage qu'il retrouve les chefs amis, dont Tevi, Timo Taipi, Hakaiki de Ho'oumi, qu'il rassure de son amitié renouvelée. Les chefs Hapa'a l'invitent à retourner dans leur vallée, où nourriture, jeune femme et de quoi se sécher, les attendent, car il avait plu presque toute la journée. En montant, il rencontre Kiato Nui, qui lui manifeste toute son admiration en lui imposant la tête de ses mains et en frottant son front contre ses genoux.
Une belle marque de respect et d'estime. De crainte aussi, de la part d'un chef Hakaiki, dont la tête était l'élément le plus tapu, le plus intouchable de la tribu.
Au total, en raison de la grande fluidité des combats, les Taipi n'ont pas perdu plus de 30 guerriers, dont 2 sont rapportés à Taiohae pour les cérémonies rituelles. Ils seront ensuite disposés dans la pirogue mortuaire du Tau'a mort lors du combat avec les Hapa. Nous reviendrons sur cet épisode dans la dernière partie du séjour de Porter, c'est-à-dire la prochaine fois. Le 2 décembre, après une nuit de repos, Porter reprend la route de Taiohae où il arrive vers 8 heures. Avant de se reposer, il fait envoyer un message de paix aux Taipi. Ce dernier message revient en annonçant qu'ils sont prêts à acheter son amitié à n'importe quel prix et qu'ils enverront un émissaire le lendemain afin de connaître ses conditions. Le 3 décembre, donc le lendemain, un chef Taipi se présente au camp accompagné d'un Tau'a. Porteur leur renouvelle les conditions faites aux autres tribus à son arrivée et heureux de l'informer qu'ils avaient perdu peu de porcs lors des combats, les Taipi acceptent de lui en faire parvenir 400 sans délai. Suivant l'exemple des Taipi et pour ne pas être en reste, les tribus alliées renouvellent aussitôt leurs envois de vivres à telle enseigne que le camp américain est bientôt envahi de centaines de porcs errants. Par manque de sel pour les conserver, Porteur ne peut pas les abattre et en fait transférer tout ce qu'il peut sur ses prises. Aux autres, il fait couper l'oreille droite et entailler l'oreille gauche, puis il en fait relâcher 500 en interdisant aux habitants de les tuer. Il sait qu'il ne pourra pas tout contrôler et se console en pensant que c'est une compensation importante de l'aide fournie par les TII. Pendant les jours qui suivent, Porteur reçoit de nombreuses marques de respect de tous côtés. Beaucoup d'anciens du village viennent le remercier d'avoir établi une paix qui leur permet désormais de voyager dans l'île sans courir de risques. Lorsqu'il les informe de son départ proche, beaucoup veulent échanger leur nom avec lui et il est obligé de puiser dans tout le répertoire de sa famille. Le nom le plus prisé des Enana est celui de son fils. Et après son départ, nombreux seront ceux qui se targueront du patronyme de Pikinini Apota, petit enfant de porteur. Quand il précise qu'il reviendra dans un an, tous promettent de rester fidèles à leur alliance avec lui et entre eux. Les projets de Porteur sont de partir sous peu sur l'Essex réparé, accompagné du New Zealander. Sur ce dernier, il entreprend de faire charger l'huile de baleine entreposée sur ses prises, mais il s'agit là d'un travail fastidieux qui consiste à pomper l'huile des caves des navires afin d'en remplir de petits tonneaux qu'on transporte ensuite à bord du New Zealander. Face à la durée de ce travail, Porteur décide de faire voile tout seul sur l'Essex. Chers amis, nous voici presque arrivés au terme du séjour de David Porteur à Taiohae. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle, avant son départ, nous le suivrons au cours de sa visite d'un site funéraire majeur de la vallée Pākehiu qui nous révélera des traditions Enana très anciennes. Et puis, Porteur quittera Nukuhiva pour ne jamais plus y revenir. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Te'eo et sur mon site internet te'eo.com. Et merci à Kaveemo Etai pour sa chanson Kaoha Tupuna, un salut aux ancêtres qui nous invite à monter sur le Pai Pai Tapu, la terrasse pavée sacrée de la famille, afin d'y retrouver la présence des ancêtres, les Tupuna. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai. O Oahu.